Je vais faire une lecture ce matin plus longue que d'habitude et je ne veux pas que vous ratiez les détails passionnants de cette histoire. L'histoire se déroule dans l'histoire d'Israël, la nation d'Israël. Et juste avant de lire le passage, j'aimerais présenter un peu deux personnages clés de l'histoire. Il s'agit de Joab, un s'appelle Joab et l'autre s'appelle Abner. Joab et Abner. Et ça se passe à un moment où il y a une transition de pouvoir entre la maison de Saül, qui était le premier roi, et maintenant c'est David qui sera le roi suivant. Donc la maison de Saül et la maison de David, mais ici ils sont en guerre civile, on pourrait dire. Et donc Abner, c'est le commandant des forces de la maison de Saül, le roi Ish-Boshet, et puis Joab, c'est le commandant des forces de David. Donc Abner et Joab, retenez ces deux personnages et vous allez pouvoir suivre avec moi. 2 Samuel, chapitre 2, verset 12. Abner, fils de Ner, et les gens d'Ish-Boshet, fils de Saül, sortirent de Manaïm pour marcher sur Gabaon. Joab, fils de Tseruja, et les gens de David se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon. Ils s'arrêtèrent les uns en décalage de l'étang et les autres au-delà. Abner dit à Joab, « Que ces jeunes gens se lèvent et qu'ils se battent devant nous. » Joab répondit, « Qui se lève ?» Ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal, 12 pour Benjamin et pour Ish-Boshet, fils de Saül, et 12 des gens de David. Chacun saisissant son adversaire par la tête, lui enfonça son épée dans le flanc, et ils tombèrent tous ensemble. Et l'on donna à ce lieu, qui est près de Gabaon, le nom de Helkath Hatzurim. Et il y eut en ce jour un combat très rude, dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Là se trouvaient les trois fils de Tseruja, Joab, Abishai et Azaël. Azaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Il poursuivit Abner, sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner regarda derrière lui et dit, « Est-ce toi, Azaël ?» Il répondit, « C'est moi. » Abner lui dit, « Tire à droite ou à gauche, saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. » Mais Azaël ne voulut point se détourner de lui. Abner dit encore à Azaël, « Détourne-toi de moi. Pourquoi te frapperai-je et t'abattrai-je en terre ? Comment ensuite lèverai-je le visage devant ton frère Joab ?» Mais Azaël refusa de se détourner, sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance, et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient au lieu où Azaël était tombé mort s'y arrêtaient. Joab et Abishai poursuivaient Abner, et le soleil se couchait quand ils arrivaient au coteau d'Ama, qui est en face de Giach, sur le chemin du désert de Gabaon. Les fils de Benjamin se rallièrent à la suite d'Abner et formèrent un corps. Ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Abner appela Joab et dit, « L'épée dévora-t-elle toujours? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin? Jusqu'à quand tarderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères ?» Joab répondit, « Dieu est vivant. Si tu n'es pas parlé, le peuple n'aurait pas cessé avant le matin de poursuivre ses frères. » Et Joab sonna de la trompette, et tout le peuple s'arrêta, et ne poursuivirent plus Israël, et continuèrent pas à se battre. Et maintenant, un peu en chapitre 3, je reprends verset 22. Abner va maintenant rallier du côté de David, changer d'alliance, et aller du côté de David. Voici Joab, chapitre 3, verset 22, voici Joab et les gens de David. Verset 17. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit, « Vous désiriez autrefois avoir David pour roi, établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui, « C'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple, d'Israël, de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. » Abner parla aussi à Benjamin, il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron ce qu'avait résolu Israël et toute la maison de Benjamin. Il arriva auprès de David à Hébron accompagné de 20 hommes, et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, « Je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. » David renvoya Abner qui s'en alla en paix. Voici Joab et les gens de David revinrent d'une excursion et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il s'était allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi qu'il a renvoyé et s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi et dit, « Qu'as-tu fait ? Voici, Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir ?» Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches et pour savoir ce que tu fais. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart du milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, et là, il le frappa au ventre et le tua, pour venger la mort d'Azaël, son frère. David l'a appris ensuite et dit, « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père, qu'il y ait toujours quelqu'un de la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton et qui tombe par l'épée ou qui manque de pain. Ainsi, Joab et Abishaï, son frère, tuèrent Abner parce qu'il avait donné la mort à Azaël, leur frère, à Gabaon, dans la bataille. » Voilà, tout ce récit passionnant, houleux dans la vie d'Israël. Et on reprend un peu cette série sur les sentiments qui peuvent perturber la vie du chrétien. Et un sentiment qui ressort dans ce récit, qu'on retrouve notamment chez Joab, c'est le sentiment de la rancune. La rancune, le ressentiment... La rancune, c'est nourrir des pensées de vengeance, nourrir des pensées d'amertume envers un autre, peut-être qui nous a fait un tort ou qu'on estime être un ennemi. Ici, comme j'ai dit, nous assistons à un moment clé dans l'histoire d'Israël. Il y a cette transition de pouvoir entre la maison de Saül et la maison de David. Et comme vous savez, dans les affaires politiques, c'est toujours un moment très délicat, très fragile, quand il y a un changement de pouvoir. Et combien souvent, quand il y a un changement de pouvoir, les nouveaux qui prennent le pouvoir disent, voilà, maintenant que c'est nous en pouvoir, maintenant que je suis en position de force, je vais pouvoir infliger aux autres ce qu'ils m'ont fait subir, voire même pire. Et c'est un peu l'attitude de Joab ici. Vouloir se venger, vouloir... régler un règlement de compte. Mais David, le roi David, il va faire quelque chose d'exceptionnel, très rare dans le monde des affaires, le monde politique, c'est qu'une fois au pouvoir, il ne va pas utiliser son pouvoir pour se venger, pour donner libre cours à une rancune, pour régler des comptes, pour établir en tant que justicier des torts subis dans le passé. Non, son attitude, son attitude va sauver le pays, parce que son attitude sera une attitude de paix, de réconciliation. Alors que celle de Joab, ici, on voit cette rancune et puis cette vengeance et cette meurtre même, risque de chambouler tout le processus de paix, d'unité dont ce pays a si besoin. Et c'est aussi quelque chose dans nos vies, quelque chose qui peut détruire notre vie, détruire le progrès, détruire la stabilité de notre vie, la stabilité intérieure, la paix intérieure, c'est cette rancune, vivre avec des pensées de vengeance ou de règlement de compte. Le danger de la rancune. J'aime bien ce que disait Jacques Rouvière, il était un directeur de la Banque de France, et voilà ce qu'il dit, « La rancune est une maladie qui ne pardonne pas. » La rancune est une maladie qui ne pardonne pas. Et bien sûr, il y a un double sens dans cette phrase, mais dans ce qu'il dit, décrit le problème. C'est que c'est quelque chose qui détruit, qui ne pardonne pas, qui est impitoyable dans nos vies. C'est une maladie qui ne pardonne pas, mais il le souligne, la solution aussi, c'est retrouver le pardon. Donc ce matin, j'aimerais creuser un peu ce sentiment qui peut aussi nous affecter, parfois durer des années. On va voir la puissance destructrice de la rancune, la puissance libératrice du pardon, et comment enfin déclencher la bonne, comment accéder à la bonne puissance dans notre vie pour avancer. Donc tout d'abord, une puissance qui est destructrice, cette rancune, pour dire que c'est un sentiment qui fait partie de la famille des rongeurs. C'est un sentiment qui fait partie de la famille des rongeurs parce qu'elle ronge, la rancune, elle ronge, elle détruit, elle dévore. Et c'est ce qui ressort déjà dans cette histoire. Abner avait compris cela. Le pays est en guerre civile. Chacun va se battre, essayer de tuer l'autre. Et à un moment là, ils se rencontrent, les troupes. Et en verset 26, Abner appelle Joab. Donc il dit, l'épée dévora-t-elle toujours? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume jusqu'à la fin? Et la réflexion d'Abner était quand même injuste en disant, si on continue comme ça, jusqu'à quand? L'épée, on va s'entretenir jusqu'à plus rien et encore il y aura de l'amertume. On va juste propager, véhiculer l'amertume. Il y aura de l'amertume jusqu'à la fin si on continue de fonctionner comme ça. Effectivement, la rancune, elle a cette capacité de détruire, et de toujours détruire, toujours pousser plus loin. Tout d'abord, elle détruit nos relations avec autrui, ce qui est déjà un mal, un tort. Ici, le pays est en guerre civile. C'est déjà dommage, ce pays qui, normalement, devrait être uni sous le regard de Dieu. Ils sont en guerre civile entre la maison de Saül et la maison de David. Et bien sûr, dans une guerre civile comme ça, on aura toujours quelque chose à reprocher au camp adverse. On aura toujours subi un tort, reproché, donc un désir de régler. Alors la solution ici, c'est de s'entretuer. Nous trouvons cette scène qui, je trouve, très parlante à l'étang de Gabaon, où les deux armées se rencontrent et puis les commandants décident on va régler ça avec une espèce de combat, un duel représentatif. Donc chacun va envoyer 12 guerriers, 12, et puis eux ils vont se battre. On verra ce que ça donne. Et il y en a 12 de chaque côté et chacun tire son adversaire et lui met un coup d'épée. Et voilà, le résultat, c'est que tout le monde meurt. Il y a un commentaire assez connu sur la vie de David et il fait ressortir que, justement, cette image est très parlante. C'est tout un commentaire sur la vie en Israël. Il y en a 12. Ça représente facilement les 12 tribus d'Israël qui sont ensemble. Mais la chose, c'est qu'au lieu d'être unis, maintenant, il y a deux camps de 12 chacun. Et puis, voilà, on s'auto-détruit, on s'entretue. Comme Jésus même disait, une maison divisée ne peut pas tenir, une maison divisée contre elle-même va s'auto-détruire. Et c'est le cas ici, notamment c'est même les deux tribus qui devraient être proches, Benjamin et Judas, ils sont voisins, ils sont prochains, mais cette méthode de régler des choses, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tout le monde perd, tout le monde meurt. Alors nous, quand on regarde la société aujourd'hui, combien ont adopté cette même démarche, cette même manière de régler des conflits, cette même attitude? Il me fait un tort, je te fais un retour. Rendre le mal pour le mal, ça semble logique, voilà, il a une épée, moi j'ai une épée, on a qu'à... Mais le résultat, ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est comme disait Martin Luther King, disait l'ancienne loi du talion, œil pour œil, ça rend tout le monde aveugle. C'est-à-dire, si on fait de cette loi du talion une application personnelle à ses affaires personnelles, ce n'était pas prévu que pour ça, mais si on en fait une application à nos vies personnelles, effectivement, c'est inévitable que ça rend tout le monde aveugle, œil pour œil. La chose, c'est que quand Dieu a donné ce principe dans la loi de Moïse, on le trouve en Lévitique, cette loi œil pour œil, dent pour dent, qu'on connaît très bien, c'est en Lévitique chapitre 24. Quand Dieu l'a donné, ce n'était pas vraiment pour régler nos affaires personnelles. Cette loi s'adresse plutôt au système judiciaire qui doit régir un peuple. Et d'ailleurs, ce principe, me semble-t-il, est toujours en vigueur, même dans les tribunaux, les lois de notre pays, c'est-à-dire la gravité de la punition doit être proportionnelle à la gravité du crime. C'est ça l'idée. La chose, que si on accepte de lire Lévitique, où se trouve la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, ça c'est en Lévitique chapitre 24, mais juste avant, en Lévitique chapitre 19, on a aussi un principe que Dieu donne, notamment pour régler nos affaires personnelles. Lévitique 19, verset 17. Donc c'est juste quelques pages avant œil pour œil, dent pour dent. Mais il dit en Lévitique 19, 17, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu pourras reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Donc juste avant cette fameuse loi qu'on aime sortir souvent pour peut-être justifier certaines actions, ben juste avant ça, il y a quand même Dieu qui dit « Tu ne te vengeras point de ton prochain, tu aimeras ton prochain toi-même. » Ce qui est intéressant ici, il dit « Tu pourras reprendre ton frère, mais ne laisse pas le péché entrer dans ton cœur avec des pensées de vengeance, d'amertume. » Et c'est déjà un principe qui nous aide à naviguer un peu le vécu, les choses peut-être difficiles que quelqu'un nous a fait subir. La solution de la Bible, ce n'est ni s'effacer dans la peur, dans la crainte, ni se venger. La solution de la Bible, c'est aimer. Et c'est radical, mais c'est nouveau. Un fléau de notre monde, comme vous savez bien, au-delà des... un peu comme la guerre civile dans le pays, il y a des guerres civiles un peu partout. Hein. Le fléau de notre monde, c'est la difficulté de réussir des relations humaines. Les pays finissent en guerre, les couples finissent en divorce, les fratries finissent en conflit, les églises finissent en scission. Pourquoi tout ça? Ah ben, à la base, c'est souvent cette rancune, cette manière, cette attitude de fonctionner qui dit, si quelqu'un me fait un tort, je riposte avec un autre. Donc ça détruit, déjà la rancune, ça détruit notre relation avec autrui. Mais non seulement la rancune détruit les relations dans la société, la rancune détruit la personne rancunière. C'est ça le comble, la rancune détruit la personne qui l'abrite dans son cœur. Je reviens à l'histoire de Joab et Abner. J'ai regardé un peu. Il faut savoir qu'il y a à peu près sept ans qui s'écoulent entre la mort de Hazaël, le frère de Joab, tué par Abner sur le champ de bataille, et puis 7 ans plus tard, Joab qui va se venger sur Abner. 7 ans, c'est beaucoup, hein. 7 ans, c'est un long temps pour nourrir des pensées de reproche, des pensées de haine, des pensées de vengeance, des pensées d'amertume. Toutes ces années, Joab n'avait jamais oublié ça et il attendait un moment peut-être où il pouvait se venger. 7 ans, c'est beaucoup, c'est long. Et finalement, c'est comme ça la rancune. La rancune, c'est un esclavage. C'est un esclavage si on la laisse s'installer dans nos cœurs. C'est un esclavage terrible. Si quelqu'un nous fait un tort, supposons que quelqu'un vous fait un tort, il vous prive d'une partie de votre bonheur ou de votre réputation, de vos chances de réussite, quelque chose. Alors, vous avez l'impression quand même qu'une injustice a été faite. Alors, c'est vrai que vous pouvez essayer de faire souffrir l'autre en retour pour chercher une espèce de consolation, de satisfaction, sachant qu'une justice a été faite. Alors, qu'est-ce que vous allez faire un peu pour imposer une justice? Eh bien, vous pouvez arrêter d'avoir des relations avec cette personne. Vous pouvez lui faire des remarques blessantes. Ou bien même sans avoir un contact direct avec lui, vous pouvez nourrir à l'intérieur des pensées méchantes à son égard. Ou bien vous pouvez mal parler de lui aux autres. C'est des manières que l'homme essaie de faire payer l'autre dans ce sentiment d'injustice. Alors, on peut avoir l'impression que ça donne un peu de soulagement, ou de ça règle les choses, mais non, vous savez, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez à qui on fait le plus de mal quand on a de telles pensées? On fait le plus de mal à soi-même. C'est-à-dire, cette rancune, ça nous rend pire. Ça nous rend pire, ça nous rend malheureux, ça nous rend plus égoïstes, ça nous rend plus critiques à l'égard de la société, ça augmente nos préjugés, parfois ça nous rend aveugles sur un tas de choses. C'est-à-dire, la rancune détruit la personne rancunière au lieu de même faire du mal à l'autre. Donc, c'est ça qui est terrible, la rancune. Il augmente notre propre souffrance, notre propre malaise, alors que l'idée, c'est de rétablir une justice, mais ça ne marche pas comme ça. C'est un cycle sans fin qui peut durer des années, comme ça a été le cas pour Joab, et puis faire beaucoup de dégâts dans la vie de la personne, et puis dans un entour. Donc, effectivement, c'est une maladie qui ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas, ça détruit, c'est impitoyable. Alors, si c'est une maladie qui ne pardonne pas, la solution se trouve aussi là-dedans, dans le pardon. On peut découvrir maintenant la puissance libératrice du pardon. Le contraire de ce sentiment de la rancune, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le pardon. Pardonner, ça signifie refuser de faire payer l'autre pour ce qu'il a fait, refuser de faire payer le responsable. Et même les psychologues de nos jours, quand ils essaient d'aider des gens, souvent ils voient le problème de la rancune qui bousille les vies, qui détruit la santé même. Alors les psychologues même, ils reconnaissent qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution à la rancune que de pardonner. Parce qu'on ne peut pas contrôler ce que l'autre fait, mais le pardon, ça peut venir de nous. Donc, les psychologues reconnaissent qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution que le pardon. Et c'est ce qu'on trouve ici dans la vie de David. C'est ce qui est remarquable dans le personnage de David, c'est qu'il a plutôt choisi cette voie-là, la voie d'arrêter le cycle de vengeance. Ici, et d'ailleurs, lui, il ne riposte pas. Il ne riposte pas, lui, envers Joab, et c'était toute une ligne de conduite pour sa vie, notamment envers la maison de Saül. Combien de fois Saül c'était le père d'Ishbosheth, mais déjà ça se passait mal entre David et Saül, mais combien de fois Saül lui a fait du tort à David, et David pouvait, il avait les occasions de se venger ou de régler les comptes, mais il l'a pas fait. Quand c'était dans son pouvoir, il aurait même pu facilement liquider Saül, il ne l'a pas fait. Ici, ce qui est fort, c'est que quand il apprend le geste de Joab, ce geste de vengeance, eh bien, il fait tout pour se dissocier, il désapprouve complètement les gestes de Joab. Le narrateur de l'histoire fait exprès de montrer à quel point David n'était pas mélangé dans ce projet, ils n'étaient pas concertés. David n'en savait rien. David était plutôt dans une démarche de paix et de réconciliation avec Abner, la maison de Saül. Et quand il apprend ça, il est défait. Il désapprouve complètement ce qui s'est passé. Il va même, je n'ai pas lu la suite, mais il va déchirer ses vêtements. Il va imposer un deuil sur le pays. Il va pleurer le sort d'Abner. Il va l'honorer comme un soldat. Il fait tout pour montrer que c'était pas son attitude, pas sa manière de penser, d'agir. Parce qu'il ne faut pas oublier, David et Joab, il y a un lien de parenté. Hein, Joab et son frère Azaël sont les neveux de David. De la même manière que Abner, il y a un lien de parenté entre Abner et Saül. Donc, ce n'est pas juste une affaire politique, c'est une affaire familiale. Et comprend facilement, encore dans les pays aujourd'hui, comment entre la famille, la politique, les pensées de vengeance peuvent facilement s'installer quand il y a des liens familiaux. Alors David, il aurait pu facilement se réjouir secrètement, en tout cas dans son cœur, que cet Abner, qui était quand même une menace à son, son, son autorité. Abner, qui était finalement le prétendant, le vrai prétendant au trône. Ish-bosheth, c'était un tout faible, tout petit. C'était Abner qui détenait l'armée, qui avait toute la force. Et donc, il aurait pu se réjouir secrètement de ce que Abner soit écarté, parce que, bon, il était lié à Saül. C'était son ancien ennemi. Il avait quand même combattu contre lui. Il avait tué son neveu, tout ça. On pourrait penser que, dans son cœur, il soit plus ou moins content, même s'il n'approuvait pas le geste. Mais même ça, il dit non, ça, c'était horrible ce qui s'est fait. Et même le peuple est convaincu que sa tristesse n'est pas feinte. Et le peuple entier, ce qui est beau, je peux vous lire le verset 36. Alors, voilà, David, il mène deuil, il est vraiment triste, vraiment en désaccord avec le geste de Joab, et il le montre bien aux yeux de tout le monde. Et verset 36, « Cela fut connu et approuvé de tout le peuple, qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprirent en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël ? Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. » Et ces gens, les fils de Tirutza, sont trop puissants pour moi, que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Donc tout le peuple finalement approuve, il trouve ça bon, il trouve ça noble, il trouve ça grand, la démarche de David, cette démarche plutôt de paix, de réconciliation, de pardon. Et je dirais que ça aussi, en quoi aujourd'hui, au fond de notre âme, de notre cœur, on reconnaît qu'il y a une grandeur, il y a une noblesse, il y a une beauté, une supériorité dans une démarche qui cherche la paix et la réconciliation, qui est prêt à pas se venger, pas toujours vivre avec un coup d'épée en retour. Et on aime ces histoires. Heureusement, il y a encore dans le monde un désir pour la paix. Parfois ça réussit pas mal. Il y avait ce film dernièrement, je crois que j'en ai déjà parlé, Invictus. C'est l'histoire de l'équipe de rugby en Afrique du Sud, mais ça suivait les événements, notamment toute la réconciliation ethnique qui devait avoir lieu dans ce pays, l'Afrique du Sud. Et il y avait le président Nelson Mandela qui est venu au pouvoir, et lui, c'était rare pour un pays africain, mais lui, il a conduit son peuple dans cette conduite de réconciliation, de pardon, de ne pas, une fois au pouvoir, profiter pour rendre le mal à ce qu'ils avaient subi. Lui, 27 ans en prison pour ses convictions. Et dans le film, il y a plusieurs scènes très beaux. C'est parce que avec ses aides qui commencent à avoir du pouvoir aussi, eux, ils veulent commencer à appliquer, notamment œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, c'est nous qui sommes au pouvoir. Et il dit non, 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 on ne peut pas faire comme ça. Il y a un moment, il parle à son garde du corps, notamment, et il dit, écoutez, la réconciliation commence avec le pardon. Et il dit, pardonner, ça libère l'âme. Pardonner, ça enlève la crainte. C'est pourquoi c'est une arme tellement puissante. Nous allons les surprendre avec notre compassion, notre générosité, c'est-à-dire toutes les choses dont ils nous ont privés quand ils étaient au pouvoir, mais nous allons faire. Et c'est vrai, il a su gagner le pays à cette ligne de conduite, et ça fait une grande différence dans les affaires. Si on arrive à arrêter ce cycle qui veut toujours monter au cran. Au fond, on sait que c'est la meilleure voie, c'est la voie qui libère. On n'est plus esclave de ce sentiment de la rancune, on n'a plus peur de l'autre, parce que on la libère, on libère notre cœur. Quand on ne met plus du bois dans le feu s'éteint tout doucement. Et la réalité, c'est que pour ceux qui choisissent la voie plutôt du pardon que la voie de la rancune, c'est une manière d'enlever le feu du bois, le bois du feu, et petit à petit, vous allez voir que le feu s'éteint. C'est-à-dire la colère se dissipe dans notre cœur au lieu de toujours prendre des proportions plus grandes. Comme j'ai dit, les psychologues, même aujourd'hui, reconnaissent tous les bienfaits du pardon. C'est souvent la première démarche à faire pour retrouver un équilibre, une paix. Ils reconnaissent les bienfaits du pardon, mais ils diront aussi que c'est très, très, très difficile. En plus, Si on pense que pardonner, c'est simplement agir comme si rien n'était, c'est illusoire. C'est illusoire, c'est même impossible. Oublier le passé, ça, ce n'est pas possible de simplement oublier le passé. Il y a des événements marquants de la vie qu'on ne peut pas oublier, des bons événements, des mauvais événements. Même si on nous dit qu'il faut les oublier, on ne peut pas simplement oublier par simple décision quelque chose qui nous est arrivé l'an passé. Joab, il ne peut pas oublier quand son frère est mort. Azaïa n'est plus là. Il ne peut pas juste simplement oublier. Donc c'est pardonner, ce n'est pas juste oublier. C'est plus pardonner, ce n'est pas faire taire notre sentiment de justice. Ça, ce n'est pas une option non plus, parce que, encore, quand on a vraiment subi un tort, le tort, il est là. Et la Bible souhaite inculquer des principes de justice, nous apprend ce qu'est le tort, le péché, l'injustice. Donc, pardonner, ce n'est pas juste faire taire un sentiment de justice. Je pense à Joab, à Abner, sur le champ de bataille. Abner, il avait tué Azaïel. C'était quand même dans des circonstances pas trop méchantes, dans le sens que c'était sur un champ de bataille. Abner avait bien averti Azaïel, mais non, si tu continues à me poursuivre, je vais devoir me défendre, et là, ça va mal se passer. Donc, sur le champ de bataille, on peut comprendre ce geste. Plus tard, ce qui était vraiment injuste, c'était Joab qui l'a tué dans une trahison. Ça, c'était pas justement dans les règles du conflit. Donc, surtout les gestes qui sont, où c'est vraiment une injustice, un tort, ils sont là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Pardonner, c'est pas juste faire taire un sentiment de justice. On peut mieux comprendre ça. Quelqu'un a donné cet exemple. Supposons que vous recevez un ami chez vous. Il vient chez vous et il garde sa voiture devant chez vous. Et en reculant, il se prend mal et il casse le portaillant de chez vous avec sa voiture. Alors, vous avez deux possibilités. Vous pouvez lui faire payer. Voilà, c'est cassé. C'est toi qui l'as cassé, donc tu peux me le régler. Ou vous pouvez payer vous-même. C'est-à-dire, vous ne demandez pas que l'autre paye, vous le payez vous-même. Ou bien, vous partagez les frais. Ou bien, vous faites appel aux assurances. Mais de toute manière, quelqu'un paye. Ça, c'est sûr, quelqu'un paye. Et même si vous ne le réparez pas, c'est quand même perdu. Ça a été payé et cassé. Et c'est là. On ne peut pas juste faire comme si rien n'était. Quelqu'un paie. Soit c'est vous qui encaissez, soit c'est l'autre qui encaisse. C'est ça, pardonner, c'est toujours encaisser quelque chose. Si pardonner, c'est le contraire d'imposer à ce que l'autre paie. Alors pardonner, il y a toujours un coût. Pardonner, ça peut faire super mal. Pardonner, c'est une souffrance, c'est un paiement. On n'exige pas que l'autre paie, on paie soi-même. Alors, où est-ce que nous allons trouver cette motivation, la possibilité de faire cela? Parce qu'on veut, le pardon, c'est une puissance libératrice, mais combien c'est difficile, parce qu'il y a quand même souvent un tort qui était là, qui nécessite paiement, justice. Où est-ce que nous allons trouver la motivation pour faire cela? Je termine avec ça, comment déclencher la bonne puissance, comment rejeter la rancune et adopter le pardon. J'aime beaucoup David, toute sa vie, ça ressort ici. Il décide justement de mettre fin au cycle des violences. Il ne veut pas que ça soit, son royaume soit dirigé ainsi. Et au lieu de prendre la justice entre ses mains, tout d'abord ce qu'il fait, c'est qu'il laisse la justice entre les mains de Dieu. C'est une première démarche. Il termine en disant que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Ce n'est pas moi qui va le faire, c'est l'Éternel. Et ça, c'est déjà une pensée très forte, libératrice pour les chrétiens, savoir que Dieu peut s'en occuper de toute injustice, tout tort, que nous aurions subi dans notre vie. Dieu est un Dieu juste. Aujourd'hui, de nos jours, en Occident, dans la société, on veut surtout un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui accepte, un Dieu qui est gentil. Et on a du mal avec un peu l'idée d'une punition, d'un enfer, d'un jugement qui arrive. Il y a un verset en Nahum, ça passerait assez mal de nos jours, je pense, Nahum 1-2, qui dit « L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge, l'Éternel se venge, il est plein de fureur, l'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. » Nous, on dit, voilà, si avec un tel Dieu, ça va nourrir des pensées de rancune, de la violence dans la société, donc ça, c'est pas bon. Il nous faut un Dieu très, très soft, très, qui pardonne tout le monde. Mais, en fait, si nous, on veut pardonner aux autres, si on veut inculquer un pensée de paix et de réconciliation, il faut un Dieu qui est juste, qui règne au-delà de tout ça. C'est-à-dire, on aura beaucoup du mal à abandonner la rancune si on croit que ça revient à nous d'imposer la justice finale. Pour adopter une pensée, on va dire, non violente envers l'autre et ne pas prendre les choses en main nous-mêmes, il faut un Dieu qui est juste. Il faut un Dieu qui voit et qui promet de régler toutes choses. C'est pourquoi la vérité biblique de l'enfer, la vérité biblique du dernier jugement, qui peut-être passe mal de nos jours, mais en fait, au lieu d'instaurer plus de violence et de méchanceté dans la société, comme on pourrait croire, c'est ce qu'elle nous empêche, nous, de ne pas riposter, de laisser à Dieu la vengeance. Dieu dit à moi la vengeance, donc ne vous vengez pas. Et ça, c'est très fort pour les chrétiens, de vivre comme ça, de pouvoir se référer à Dieu. Et puis David aussi, ce qu'il fait, c'est qu'il accepte d'être faible. Le verset 39 dit « Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. » Lui, il était le roi, il aurait pu commander ce qu'il voulait dans le chapitre suivant même. D'autres vont conspirer et assassiner Ish-Bosheth. David aurait pu ordonner, commander ça, mais quand il reçoit la nouvelle, même il n'est pas du tout content et il va punir ceux qui ont essayé de monter ce complot. Lui, il accepte ce jour-là d'être faible. Même s'il est le roi, même s'il détient le pouvoir, même s'il a l'onction royale, je suis faible. Et c'est aussi un jour ce que Christ a fait pour nous. À un moment, Paul le dit aux Éphésiens, il essaie cette église à Éphèse de vivre dans l'unité, dans la paix, dans la réconciliation, dans l'entente. Et il dit à un moment que, voilà, vous les chrétiens, dans l'église, vous devez faire disparaître toute rancune, toute amertume, toute animosité, toute colère. Faites disparaître ces choses parmi vous. Et puis il dit, dans le verset suivant, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et vous savez, l'histoire de l'Évangile, unique au monde, nous parle d'un Dieu qui a accepté d'être faible, qui a accepté d'arrêter le cycle de vengeance et qui a encaissé lui-même. Jésus, bien qu'il ait eu l'onction royale par excellence, lui, le roi de la terre, il a accepté d'être faible, de ne pas rendre le mal pour le mal. Il n'a pas réclamé que nous payions la dette, les injustices, les torts que nous avons commis. Il l'a payé lui-même. Alors, si pour nous, pardonner, c'est une souffrance, voilà, c'est parce que Dieu, dans l'ultime geste de pardon, ça a coûté la souffrance de son Fils pour que la justice soit intacte. Vous voyez ce que Dieu a fait, il a souffert de Dieu, Jésus-Christ, il est Dieu. Dieu lui-même est venu sur terre en Jésus-Christ et il a souffert, il a encaissé lui-même pour éteindre le feu, on va dire, de la colère, de la vengeance. Et il a fait, je dirais, encore plus que David. Hein. David va se référer à Dieu et va appeler même prononcer une malédiction sur Joab pour un tel geste. Et puis il va dire que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal, parce qu'il reconnaît la justice de Dieu. Mais Jésus-Christ, il était encore plus loin. Au lieu de dire que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal, il a dit que l'Éternel rende leur méchanceté sur moi, à la croix. Il a pris à la croix notre méchanceté, nos injustices. Et quand vous saisissez cela, quand vous voyez cela, effectivement, le pardon commence à devenir possible. La rancune commence à fondre, à disparaître. Et c'est ça la force, la puissance de l'Évangile. Je suis toujours étonné de voir, quand j'entends les témoignages de conversion, on les a eus ici, devant les baptêmes, avant les baptêmes, ou dans d'autres occasions, je suis toujours étonné de voir à quel point ça revient. Souvent, un des premiers pas d'un nouveau converti, d'un nouveau chrétien, c'est d'accorder le pardon à un père, ou bien à une mère, ou à quelqu'un du passé, quelqu'un dans l'entourage. C'est la première chose qui devient possible lorsque quelqu'un a saisi le pardon en Jésus-Christ. Combien en témoigner? Voilà, à partir de ce moment-là, j'ai pardonné à un tel. Et c'est bouleversant de voir que c'est systématique dans les témoignages. C'est vrai, c'est-à-dire l'Évangile est vrai, et la force, quand on comprend la croix, elle se déclenche vraiment dans notre vie, de manière concrète, de manière réelle. Pardonner à son père, hein, c'est la fête des pères, ce serait un beau cadeau, non, à accorder à un père, si ce n'est pas le cas, de pouvoir pardonner, de ne pas garder la rancune. Et ça libère la personne, ça libère l'autre pour avancer avec Dieu. C'est une réalité, quand le message de la croix remplit un cœur, la personne ne peut que faire autrement quand il connaît ce que Jésus a fait pour lui. Nous terminons dans la prière.